Recording in progress.
Hello, welcome to...
Bonjour, bienvenue à la discussion avec le conseil d'administration sur l'utilisation malveillante du DNS. Je suis Wendy Profit et je suis responsable de la participation d'ISTED pour cette séance. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et qu'elle suit les normes de comportement attendues par l'ICANN. L'interprétation pour cette séance comprendra les 5 langues de l'ONU. L'arabe, le chinois, le français, le russe et l'espagnol. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'interprétation dans Zoom et sélectionner la langue dans laquelle vous allez écouter la séance. Pour les panélistes, veuillez indiquer votre nom pour l'enregistrement avant de parler et la langue dans laquelle vous allez parler si vous vous exprimez dans une autre langue que l'anglais. Avant de parler, assurez-vous d'avoir sélectionné la langue dans laquelle vous allez vous exprimer dans le menu d'interprétation. Également, assurez-vous de mettre en sourdine toutes les notifications et veuillez parler clairement et à un rythme raisonnable pour les interprètes. Cette discussion a lieu entre le conseil d'administration et le panel d'éminents experts. Nous n'allons donc pas prendre de questions du public. Toutefois, tous les participants peuvent faire des commentaires dans le chat. Veuillez utiliser le menu déroulant dans le pod de chat et sélectionner « Répondre à tous les panélistes et participants ». Cela permettra à tout le monde de voir votre commentaire. Veuillez noter que les discussions privées ne sont possibles qu'entre panélistes dans le format Zoom webinaire. Tout message envoyé par un panéliste ou un participant standard à un autre participant standard sera également vu par les hôtes, co-animateurs et autres panélistes de la session. Pour visualiser la transcription en temps réel, cliquez sur le bouton « Close Caption » dans la barre d'outils Zoom. Sur ce, je cède la parole au président du conseil d'administration de l'ICANN, Martin Butterman. Martin Butterman au micro. Merci Wendy de cette introduction. Bienvenue à tous, en particulier bienvenue à nos experts éminents qui nous accompagnent aujourd'hui et qui n'ont pas toujours l'occasion de participer aux réunions de l'ICANN, mais qui effectuent un travail extrêmement important par rapport à ce que nous faisons et pour défendre une mission qui nous est chère. Lutter contre l'utilisation malveillante sous toutes ses formes à l'encontre du DNS. C'est une problématique sur laquelle il faut travailler. Et dans un contexte plus large, nous essayons de voir comment nous, la communauté ICANN, nous pouvons contribuer. Donc merci beaucoup de vous être montré disposé à partager vos connaissances avec nous. Comme vous le savez, vous êtes les bienvenus ici au conseil d'administration. Et je remercie aussi énormément tous les participants à cette séance, qui sont nombreux et qui participent à cette conversation, ce qui témoigne bien du vif intérêt que cette thématique suscite auprès de la communauté. Les préférences par rapport à quelconque action doivent se fonder sur le modèle multipartite de l'ICANN. Le conseil d'administration est parfaitement conscient du fait qu'il faut être prêt à agir et prendre l'initiative. Il est temps de le faire. C'est pourquoi nous avons préparé, exploré et réfléchi, voire mis en place les priorités du conseil d'administration pour travailler sur cette thématique comme moyen de compléter les efforts de la communauté et de l'organisation pour nous assurer que nous luttons contre ce problème. Donc nous attendons avec impatience les échanges lors de cette séance et les discussions. Et pour nous aussi, c'est un nouveau format que l'on met à l'essai pour voir si ça marche. Donc c'est une sorte d'expérimentation et la bonne chose avec les expérimentations, c'est que ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, c'est une bonne expérience. Sur ce, je cède la parole à Becky et Sarah qui vont modérer cette séance. Et j'attends de nouveau avec impatience d'écouter vos échanges. Becky Heber au micro, merci Martine. Bienvenue à tous nos collègues au conseil d'administration. Bienvenue à nos éminents experts au panel et à la communauté de l'ICANN au sens large. Ce matin, ce que l'on va faire, c'est essayer d'analyser en profondeur cette thématique puisque le conseil d'administration essaie de comprendre de manière très concrète de quelle manière l'écosystème peut traiter cette question de l'utilisation malveillante du DNS et quelle est la mission de l'ICANN à ce niveau-là. par rapport aux outils qu'on peut utiliser et qui ne relèvent pas de notre mission. Donc, ce que l'on va faire dans les 75 premières minutes de cette réunion, c'est de définir l'utilisation malveillante du DNS. Et ensuite, après une petite pause, les 75 minutes suivantes vont traiter l'utilisation malveillante du DNS. Je vais vous présenter maintenant nos éminents experts ici présents au panel. Et je viens, s'excuse Becky, de perdre mes notes. Donc d'abord, nous avons Christine Hoppers. Christine est directrice générale de CERT.br et ancienne directrice du conseil d'administration du Forum des équipes de réponse aux incidents et de sécurité. Elle s'est consacrée sur le fait de mettre en place de nouvelles équipes de réponse et l'adoption de bonnes pratiques. Excusez-moi, je viens de faire disparaître mes notes, dit Becky. Donc, bonne pratique, je vous disais, pour accroître la résilience de l'Internet, elle a été active dans différents forums comme Messaging, Malware, Mobile Anti-Abuse Working Group, First et autres. Elle a énormément d'expérience à nous apporter aujourd'hui. Nous avons également avec nous Graham Bunton, que vous connaîtrez peut-être mieux ici à la communauté ICANN. Graham est directeur de l'Institut sur l'utilisation malveillante du DNS et avant d'être à la tête de l'Institut, il était chef des politiques à TuCaos et était président du groupe des représentants des bureaux d'enregistrement pendant de nombreuses années. Il a été très important dans le développement du cadre en vue d'aborder l'utilisation malveillante du DNS par un groupe d'opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement. Ensuite, Jonathan Makowski, qui est chercheur principal à Risk IQ, une entreprise de renseignement sur les menaces. Il a travaillé à Messaging, Malware et M3AAWG, ainsi qu'au Forum des équipes de réponse aux incidents et de sécurité. Et même s'il est avocat et se concentre surtout sur la protection des droits de propriété intellectuelle, il est expert en renseignement sur les menaces et à ce titre, il nous accompagne aujourd'hui. Matthew Korsinski est professeur associé en informatique, réseau et cybersécurité à l'Institut de technologie de Grenoble en France. Ses principaux intérêts tournent autour des mesures actives et passives à grande échelle sur la cybersécurité, avec un accent particulier mis sur le DNS. Il est l'auteur de plusieurs rapports sur l'utilisation malveillante du DNS, vulnérabilité, mesures de réputation du DNS, incitation économique pour améliorer la sécurité de l'écosystème du DNS, etc. Roman Husey, qui est à la tête de Abuse.ch, un projet qui est hébergé par l'Université de Berne en Suisse. C'est un fournisseur réputé et connu de renseignements open source exploitables sur les menaces. Les données de abuse.ch sont utilisées à l'échelle internationale pour atténuer les menaces. Stuart Garrick est ancien responsable de l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité, où il a passé 30 années de sa carrière dans les forces de l'ordre. Et les principaux dossiers et affaires qu'il a traités sont bien connus ici à la communauté. Retrait des réseaux zombies, Drydex et Game Over. Il travaille actuellement pour la fondation Shadow Server et il fait le lien avec les agences d'application de la loi dans les principales enquêtes internationales. Donc, sans plus attendre, j'aimerais passer maintenant à notre première thématique de discussion, à savoir définir l'utilisation malveillante du DNS. Pour ce faire, je vais demander aux membres du panel de prendre chacun 2-3 minutes, tout au plus, pour nous dire ce que vous considérez être l'utilisation malveillante des noms de domaine. Quelles sont les principales caractéristiques qui définissent l'utilisation malveillante du DNS et à quoi devrait-on penser qui pourrait correspondre aux caractéristiques de l'utilisation malveillante du DNS. Alors là, on ne vous demande pas de réfléchir au rôle ou responsabilité de l'ICANN, mais plutôt de nous exposer votre point de vue. Quelles sont, d'après vous, les caractéristiques de l'utilisation malveillante du DNS? Comment le définir? Donc pour commencer, ce serait une très bonne chose d'aborder les choses de cette manière. Massier Korzinski au micro, merci beaucoup. Alors nous définissons l'utilisation malveillante du DNS d'une manière assez générale. L'utilisation malveillante du DNS, c'est l'utilisation de noms de domaine ou de protocoles DNS pour mener des activités illicites ou malveillantes. Donc cette définition est assez générale. On pourra discuter par la suite de la raison pour laquelle cette définition est générale, mais c'est également la raison pour laquelle il nous faut faire la différence entre la définition de l'atténuation de l'utilisation malveillante du DNS. Par exemple, cette définition n'implique pas que l'atténuation doit être faite au niveau du DNS. Et de fait, dans de nombreux cas, ça peut être tout à fait contre-productif ou porter dommage aux utilisateurs légitimes. Lorsque l'on retire, par exemple, des noms de domaine légitimes qui ont été piratés. Donc il y a des cadres, bien entendu, qui définissent l'utilisation malveillante du DNS et qui font la différence entre l'utilisation malveillante technique, qui définit cinq catégories différentes, le hameçonnage, le malware, etc. Et l'abus en termes de contenu, c'est plus des violations de droits de propriété, etc. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'abus au niveau du contenu ou technique, il y a très souvent des chevauchements. Ou parfois, les deux sont combinés. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons un nom de domaine hameçonné ou un site web hameçonné qui est associé à un malware, alors on a un abus en termes de contenu en raison des droits de propriété intellectuelle et de contenu dommageable. Et on a également un abus technique parce que le nom de domaine est enregistré de manière malveillante. Et lorsque nous avons un site web hameçonné qui est utilisé sur un nom de domaine compromis, alors on ne peut pas engendrer des dommages collatéraux et suspendre ce nom de domaine. Donc pour les noms de domaine compromis et les vulnérabilités, il faut les prendre en considération. Dernière chose, vous avez mentionné quelque chose qui a des caractéristiques. Vous avez parlé des caractéristiques principales. S'agissant de l'utilisation malveillante de nom de domaine, il faut voir si le nom lui-même est enregistré de manière malveillante et s'il est compromis. Et ça va conditionner les actions d'atténuation. Ce que l'on propose, c'est une approche ascendante, où il faut d'abord analyser chaque incident de manière individuelle et essayer de voir si le nom de domaine est enregistré de manière malicieuse ou compromis, alors on va décider d'actions, qu'il s'agisse de hameçonnage ou par exemple d'une distribution de logiciels malveillants, de malware. Voilà donc ce que je peux vous donner comme premier élément de réponse. Becky au micro, merci beaucoup. Marcier, la distinction entre l'abus technique et l'abus en matière de contenu, c'est une différence très utile que vous nous avez donnée. Christine, est-ce que vous pouvez répondre maintenant? C'est à vous. Christine au micro, oui, merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à cette discussion. J'aimerais dire que par rapport à ce que vient de dire Massiège, je pense que c'est un abus très mitigé. Je ne dirais pas que c'est un contenu technique, mais parler d'utilisation malveillante du DNS, c'est trop vague. Parce que le DNS, ça va au-delà qu'un écosystème. Nous avons une base de données distribuée qui est une série d'acteurs qui s'en occupent. Et il y a également les protocoles et la mise en œuvre qui ont à voir avec des requêtes sur ces bases de données, qui assure le flux. Donc, en fait, il y a deux types ou plusieurs types de DNS dont il s'agit ici. Et lorsqu'il s'agit d'incidents, si vous pensez au DNS comme base de données, oui, effectivement, c'est peut-être un faux nom ou quelqu'un qui a compromis un serveur. Donc, la personne qui est responsable de la base de données, qu'elle soit à haut niveau, bureau d'enregistrement ou propriétaire du nom de domaine, vous avez un seul acteur qui a à voir avec cette utilisation malveillante. Et donc là, vous avez une définition. Donc, lorsque vous êtes en train de compromettre un serveur, vous êtes en train de porter atteinte à toute la base de données. En créant de faux noms ou en piratant des noms. Lorsque vous compromettez un serveur, par exemple, ou en faisant ce genre de choses. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, lorsque vous avez
an implementation and we have
sa mise en œuvre, vous avez des vulnérabilités à ces deux niveaux. Vous avez des problèmes avec les protocoles de DNS, avec des empoisonnements de cache et des problèmes liés à la mise en œuvre. Donc, vous avez des gens qui commettent des délits à ce niveau-là et c'est très complexe. Peuvent inclure ou impliquer des fournisseurs, des managers de fournisseurs de services Internet. Donc, c'est quelque chose de très mitigé et je pense qu'il faudrait qualifier le terme utilisation malveillante du DNS et ne pas l'utiliser de manière aussi générale. Parce que dans mes activités journalières, je dois expliquer de quoi il retourne et j'ai très souvent comme réponse, je ne suis pas propriétaire du domaine. Or, ça n'est pas le problème. Vous avez un site compromis ou vous donnez de fausses informations. Et en général, la réponse que j'obtiens de l'entreprise, c'est « Non, écoutez, le problème, c'est le serveur. » Donc, je réponds « Oui, c'est un problème si ça n'est pas délégué à un tiers. »
Donc, définir l'utilisation malveillante du DNS doit donner lieu à des discussions. Je ne sais pas exactement s'il faut surtout se centrer sur ce qui est technique, mais il faut vraiment définir ce dont on parle. Est-ce que le DNS est une cible et que c'est pour ça qu'elle est ciblée ou est-ce que le DNS est ciblé pour des raisons de COVID, etc. Donc, je n'ai pas une réponse unique. Tout dépend du contexte et il est vraiment complexe de dire « oui, je suis d'accord ». En fait, par rapport à ce qu'a dit Massiège, il ne faut pas que les mauvais acteurs soient en mesure de faire quoi que ce soit. Pour moi, l'utilisation malveillante du DNS, c'est peut-être aussi ce qu'il a dit. Donc, par exemple, le compromis et le hameçonnage. Là, il faut s'occuper du compromis parce qu'aucun domaine n'a été créé. Et donc, retirer le domaine serait négatif parce que vous avez une victime. Il faut donc aider la victime et non pas l'accuser parce qu'elle a été compromise et qu'elle a eu un problème. Donc, lui retirer son domaine n'est pas juste. Et donc, je crois qu'il est très important de vraiment bien caractériser, de comprendre en profondeur les questions. Et je souhaite déjà féliciter l'ICANN pour le rapport final qui a mis en lumière beaucoup des abus. Il y a certaines définitions sur lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a des atténuations sur lesquelles je ne suis pas d'accord non plus, mais je crois que ce document est tout à fait complet et il permet de promouvoir une discussion sur toute la complexité de système. Et je n'ai pas de définition unique finalement de l'utilisation malveillante du DNS. Je vous remercie, c'était mon introduction. Merci, Romane. Romane au micro, oui, merci. Nous avons défini l'utilisation malveillante du DNS de manière assez simple finalement. Donc, chaque utilisation malveillante sur l'Internet qui implique un nom de domaine est une utilisation malveillante. Alors, cela ne veut pas dire, cela ne définit pas qui peut agir pour prévenir ces abus ou alors qui doit agir pour prévenir les abus. Donc, c'est simplement le fait que le DNS est utilisé à des fins d'utilisation malveillante et dans ce cas, pour nous, cela fait partie de la définition. Nous divisons l'utilisation malveillante du DNS dans différentes catégories. Nous parlons, comme cela a déjà été mentionné, de tout ce qui est donc programme malveillant, hameçonnage, réseaux zombies, etc. Mais la définition se complique, je crois. Et cela a aussi été mentionné, me semble-t-il, du point de vue de la différenciation entre le technique et le contenu. Donc, pour vous donner un exemple, lorsqu'un nom de domaine a été enregistré avec pour objectif justement de ne faire que du hameçonnage, par exemple, eh bien, c'est une utilisation malveillante technique du nom de domaine. Ou alors, si un nom de domaine est piraté au niveau du bureau d'enregistrement, par compromission par exemple, et bien là c'est une utilisation malveillante technique. Mais de l'autre côté, nous avons donc tout le contenu. Et c'est quelque chose qui se produit régulièrement. Nous nous occupons des problèmes de réseaux zombies, hameçonnage et programmes malveillants assez fréquemment. Mais donc, concentrons-nous sur le hameçonnage et les programmes malveillants. Lorsqu'il y a compromission, eh bien, le DNS est utilisé pour avoir accès au contenu. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement doit agir pour éviter tout préjudice. Donc, le nom de domaine est utilisé pour accéder à un contenu frauduleux. Et ensuite, il est hébergé sur un site compromis. Et donc, c'est un petit peu de cette manière que nous définissons l'utilisation malveillante du DNS. Becky au micro, merci. Graham. Graham au micro, merci Becky. Et merci pour cette séance. Je suis reconnaissant au conseil de l'avoir organisée. Alors, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, de manière officielle, l'Institut, donc DNS Abuse Institute, dont je suis le directeur, a adopté la même définition que celle des parties contractantes à l'ICANN. Et nous l'avons fait parce que je pense que, d'une manière générale, cela vraiment permet de couvrir tout le problème. C'est une liste assez courte que tout le monde connaît. Donc, cela permet d'agir de manière assez pratique. Et en plus, c'est cohérent avec les statuts de l'ICANN, ce qui est une considération importante. Plus informellement, je pense que cette définition avec les différentes catégories est problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle est assez rigide. Donc, il va falloir être créatif et trouver d'autres techniques qui vont être haineuses et qui vont exploiter le DNS. Donc, de la part des acteurs malveillants, et donc ça ne fera pas partie de ces catégories. Le dévoiement, par exemple, est assez compliqué parce qu'il y a l'empoisonnement, il y a le hameçonnage, tout ceci est impliqué. Et donc, c'est quelque chose que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre doivent gérer. Donc, le mettre dans cette liste est peut-être douteux. Et par rapport à cette définition, c'est un point important qui a été soulevé tout à l'heure. Il n'y a pas de distinction entre les enregistrements malveillants et les sites compromis. Ceci est important pour justement atténuer les préjudices en ligne. Alors, je crois que d'une manière générale, il va être vraiment compliqué de trouver une définition de l'utilisation malveillante du DNS en essayant de dissecter les différents attributs du préjudice en lui-même. Qu'est-ce qui, dans le hameçonnage ou dans le programme malveillant, font qu'ils sont en fait malveillants? Et les définitions ne sont pas claires. À la base, définir l'utilisation malveillante de cette manière ne dit pas pourquoi il faut s'en occuper. Et donc, cette question du pourquoi est absolument cruciale dans le cadre de la définition. Je mettrai un lien dans le chat, mais j'ai en fait tout un document de réflexion sur le traitement de l'utilisation malveillante du DNS en utilisant les attributs de l'atténuation plutôt que les attributs du préjudice. C'est un petit peu complexe à décrire ici, mais brièvement, si vous souhaitez, les techniques d'atténuation doivent être efficaces. Il faut qu'elle soit rapide, simple, qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle soit précise et qu'elle soit proportionnée. Et donc, lorsqu'on regarde tous les préjudices en ligne, que ce soit des préjudices d'hébergement, du DNS sur une plateforme de contenu plutôt que sur CDN, en fait, on essaye de voir quelle est l'application de ces attributs à chacune de ces couches et on voit les résultats, les lieux d'attaque. C'est rapide, c'est efficace et c'est proportionné, ainsi que précis en termes de solution. Et donc, ce sont des mesures un petit peu compliquées. Je vous enverrai ce lien, mais de cette manière, nous avons une meilleure compréhension, peut-être plus sophistiquée, de l'utilisation malveillante du DNS. Et en fait, ce sont les préjudices au DNS et le langage de discussion au niveau des désaccords peut également être plus précis. Merci. Becky au micro, merci. Et enfin, Jonathan. On ne vous entend pas, Jonathan? Jonathan au micro, excusez-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Makowski. Je suis chercheur à RiskIQ qui fait partie de Microsoft et de son travail sur la conformité. Je suis également coprésident du premier groupe d'intérêt sur l'utilisation malveillante DNS. Ce que je vais vous exprimer maintenant ne reflète pas nécessairement les points de vue de mon employeur. Merci beaucoup de m'avoir inclus dans ce panel. C'est un honneur et un privilège. Alors, prenons un peu de recul. Sécuriser l'infrastructure est le plus gros obstacle en termes de transformation numérique au niveau de la communauté mondiale. La plus grande économie dans le monde actuellement, c'est en fait l'économie de la cybercriminalité. Les autres économies, c'est des milliards, des dizaines de milliards de dispositifs connectés à l'Internet. Donc, tout ceci est exposé aux infractions de données. Si nous ne progressons pas d'ici 2025, eh bien, ce sera des milliards et des milliards de dollars qui seront impactés. Alors, en ce qui concerne l'utilisation malveillante du DNS, je travaille avec le modèle Diamant. Les adversaires déploient des capacités par rapport à certaines infrastructures qui attaquent des victimes. Donc, c'est le modèle du Diamant en termes de menaces. Les victimes peuvent être un titulaire de nom de domaine, un nom de domaine ou quelqu'un d'autre. L'infrastructure, c'est ce que les adversaires utilisent pour livrer les capacités ou pour maintenir le contrôle des capacités et pour obtenir des résultats aux dépens de leur victime. Donc le DNS, de cette perspective, peut être la victime ou alors l'infrastructure qui est contrôlée par l'adversaire ou l'intermédiaire. Les équipes d'intervention au niveau de la sécurité travaillent dans le contexte international de manière à définir l'utilisation malveillante du DNS avec pour objectif de protéger les concitoyens et pour établir des recommandations en matière de politique. Nous avons un premier document qui a été rédigé et la feuille de route devrait donc être publié sur le site de ce groupe de travail, sur le site de FIRST. Notre taxonomie est alignée avec le système de nom de domaine et l'initiative du groupe technique DFSI-TSG. Et je souhaite saluer leur travail. Les recommandations de ce groupe de travail sont absolument exceptionnelles. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner les recommandations relatives à l'éducation et à la sensibilisation. Ce que nous avons effectué, et nous, c'est donc le groupe d'intérêt dont je parlais, donc nous avons fait le rapport avec les incidents en utilisant une taxonomie sur les incidents. Nous avons mis ceci en lien avec le système de nom de domaine. Alors, le type d'incident concerne différentes catégories, de l'utilisation malveillante du contenu à la collecte d'informations malveillantes, aux intrusions, aux disponibilités, aux fraudes et autres cas, y compris les enregistrements frauduleux. Et pour chaque catégorie, nous avons souligné différents exemples que nous avons évalués dans chaque domaine de menace, qui pour nous représentait soit une utilisation malveillante du DNS ou par le DNS, que celui-ci puisse être détecté ou atténué par le DNS, ou détecté et atténué par le DNS. Nous avons essayé de voir quel était le niveau de difficulté de qualification d'un événement. Il peut y avoir acquisition de ressources ou intrusion. Donc, je vais vous donner quelques exemples sans rentrer dans le détail ou dans des exemples précis, simplement pour illustrer mon propos. Donc, je vais prendre l'exemple de la fraude et je vais comparer ceci au contenu malveillant. Donc, le hameçonnage, c'est de la fraude. Donc, ça peut être une ressource acquise ou une intrusion.
Mais ça n'est pas forcément une utilisation malveillante du DNS. Ça peut être un abus du DNS et un abus par l'intermédiaire du DNS. Et comparons cela avec un abus de contenu à haut niveau. Ça peut être un abus par le DNS, mais ça n'est pas un abus du DNS, de la structure du DNS. Et je vais le comparer au code malveillant. Certains codes sont toujours en situation d'utilisation malveillante de l'infrastructure, mais c'est toujours un abus par le DNS. D'autres codes malicieux, ce n'est pas une utilisation malveillante du DNS. Et certains sont les deux, un abus du DNS et par le DNS. Que ce soit l'empoisonnement du cache ou autre. Donc le résultat, c'est une composante essentielle de ce type de menace. Et le modèle dont je vous parlais, je vais en parler dans un instant, pour voir si l'enregistrement d'un domaine tombe dans la catégorie utilisation malveillante du DNS ou pas. Et ça inclut bien entendu l'empoisonnement du DNS. Mais ça, c'est à haut niveau. Becky au micro, merci beaucoup. Et excusez-moi, je me suis trompée, Jonathan, ça n'était pas le dernier. Nous avons Stewart Garrick aussi qui nous accompagne et nous aimerions l'entendre. Stewart, au micro, j'espère qu'on m'entend bien. Excusez-moi, je n'ai pas pu trouver mes écouteurs. Je souhaite également vous remercier de m'avoir invité. Et j'ai le sentiment que j'étais pas toujours dans la bonne salle quand je suivais mes cours à l'université. Ici, je suis à la bonne place. Donc, je ne suis pas ingénieur, je ne vais jamais prétendre l'être. Donc, je n'arrive pas à la hauteur, d'un point de vue technique, des gens qui m'accompagnent ici. Mais j'ai des connaissances sur l'utilisation malveillante du DNS. Il y a deux manières, d'une manière générale, de le définir. D'abord, le point de vue d'ingénierie qui essaie de dresser une liste et de voir si ça tombe dans une catégorie ou dans une autre sur cette liste. Ou il y a un point de vue plus léger pour voir quelle est l'intention. Pourquoi utiliser un nom de domaine de cette manière? Est-ce que c'était à des fins licites ou des fins illicites ou malveillantes? Et je sais que c'est assez problématique d'aborder les choses de cette manière, parce que si vous allez le faire de cette manière, vous allez tomber inévitablement dans un jugement, voir si c'était licite ou pas. Et le DNS couvre toute la planète, quelle que soit la juridiction appliquée. Et j'aimerais avoir une réponse à cela. Et si on essaie de tromper quelqu'un pour cliquer sur un lien, ça n'est pas ce pourquoi le DNS a été créé. S'il s'agit d'utiliser un nom de domaine pour lancer une attaque de déni de service, ça n'est pas non plus pour ça que le DNS a été créé. Donc là, l'intention est malveillante, illicite, et pour nous, ça, c'est une utilisation malveillante du DNS. Peut-être que ça n'est pas une violation technique, mais en tout cas, on utilise ce système pour perpétrer des actes délictueux. C'est ainsi qu'on voit les choses. Becky Beur au micro, très bien, merci. Donc on a plusieurs points de vue qui ont été évoqués ici avec des définitions assez larges de l'utilisation malveillante du DNS avec des divisions entre l'aspect technique et l'aspect lié au contenu. Et je crois qu'il n'y a rien eu d'autre comme catégorie, à moins que je n'ai raté quelque chose. Et certains d'entre vous disaient que les définitions trop étroites ou les définitions qui existent ne sont pas forcément très utiles par rapport aux préjudices ou aux intentions. Parce que les intentions, ça pourrait être une autre manière d'aborder cette question. Donc il y a plusieurs manières de réfléchir à cette question et de l'aborder. Et toutes ces manières sont utiles. On va maintenant passer aux questions du conseil d'administration, mais d'abord, j'aimerais revenir vers les membres du panel pour leur demander, est-ce que vous aimeriez réagir à ce qu'aurait dit un autre membre du panel avant vous? Si c'est le cas, utilisez l'icône « lever la main » pour le faire savoir. Mais je pense qu'il y a plusieurs points de vue ici qui ont été évoqués. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils soient incompatibles les uns avec les autres. En attendant, les membres du panel peuvent également lever la main. Alors, est-ce qu'il y a des membres du panel qui souhaitent faire des commentaires hein, ou est-ce que les membres du panel veulent réagir à ce qu'ont dit les autres membres du panel? Ça n'a pas forcément d'ailleurs à être une critique. Hein. Oui, allez-y, Maciej. Maciej Korzynski au micro. Alors tout d'abord, je pense que la définition qu'a donnée Romane est tout à fait dans le droit fil de notre définition. Et je voulais faire un commentaire sur la définition qu'a donnée Graham, notamment la deuxième partie. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. En effet, nous pensons, et d'ailleurs je vais peut-être répéter des choses qu'a dit Graham, mais le fait de limiter l'utilisation malveillante du DNS à certaines catégories ou essayer de cantonner certaines catégories, par exemple, je suis tout à fait d'accord avec Graham pour dire que le dévoiement est très superficiel et on pourrait maintenant voir sur le chat combien d'incidents de dévoiement en tant qu'opérateur du DNS avez-vous pu observer ces dernières années? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce phénomène. Et voyons les deux autres exemples. Lorsqu'on analyse ce qu'a dit Romane, et les données qui sont utilisées pour donner lieu à des données malveillantes. Seuls 4% utilisent des noms de domaine. Et lorsqu'on regarde ces 4%, on voit qu'il y a une grande partie d'entre eux que les attaquants utilisent des services gratuits, comme Google Drive par exemple. Donc il faut faire la distinction entre un nom de domaine compromis et 41% sont compromis. Donc en fin de compte, nous avons 1 ou 2% des domaines qui sont utilisés pour distribuer des programmes malveillants. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut les retirer de ces catégories ou plutôt qu'il faudrait penser à une définition plus large qui couvrirait aussi le fait que les attaquants sont en train d'ajuster leurs attaques, leurs stratégies? Autre exemple, et le dernier d'ailleurs que je vous donnerai pour ne pas prendre trop de temps, les adresses IP qui ont été utilisées pour faire une communication entre des sources compromises et des centres de contrôle. Puis, il y a une avalanche et beaucoup de familles de programmes malveillants qui ont utilisé des infrastructures extrêmement complexes. Donc, les attaquants sont passés d'utiliser des adresses IP compromises à des noms de domaine. La grande question est de savoir, est-ce qu'il faut s'atteler à ces cinq catégories ou est-ce qu'il faut être, être plus général dans notre définition pour prendre en considération les attaques futures. Et bien entendu, la définition est tout à fait séparée de savoir qui doit atténuer, parce que ça, c'est une toute autre question. Becky au micro, merci. Graham, à vous. Graham Bunton au micro, merci Becky. Alors, je pense que ce qu'on a entendu de la part des panélistes, c'est qu'il y a énormément de complexité dans toute cette question. Et il y a beaucoup d'approches qui sont proposées. D'abord, les caractéristiques des préjudices, les intentions des acteurs, caractéristiques de l'atténuation. Et je pense qu'elles sont toutes valides, ces approches. Toutefois, ça fait longtemps maintenant que je suis au sein de la communauté de l'ICANN. Et l'Institut travaille en étroite coopération avec les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement. Et lorsqu'on se lance dans ces discussions sur ces grandes définitions très complexes, je suis un peu réticent parce que je vois qu'il y a beaucoup d'énergie insufflée là-dessus. Et si on commençait par les programmes malveillants et le hameçonnage, on pourrait commencer par quelque chose pour commencer à travailler en cercle concentrique pour ensuite aller vers le reste. Donc moi, je veux que la communauté agisse et fasse la différence. Et il ne s'agit pas de trop se disperser lorsque finalement on a des choses très concrètes au centre de tout cela, sur lesquels on devrait se concentrer. Becky au micro, merci Graham. Oui, je pense que qu'on pense aux caractéristiques du préjudice, caractéristiques de l'atténuation, l'aspect technique par rapport au contenu. Et un appel pour ne pas trop limiter cette définition, pour prendre en considération les évolutions futures. Par rapport à tout cela, Christine, est-ce que vous voulez réagir? Christine Hopper, ce micro. Oui, merci. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Après Graham, il a parlé de la définition ICANN, l'ancienne définition, non pas le rapport du SIC. Parce que cette définition, je n'en suis pas d'accord avec cette définition, parce que on parle de programmes malveillants, hameçonnage, spam, etc. Nous, on voit ce genre d'attaque. Et il y en a d'autres. Vous pouvez avoir un programme malveillant qui utilise le dévoiement. Dans le cas du dévoiement, je pense que c'est une définition qui relevait plus du marketing que du technique. Elle était très confuse. Mais j'aimerais partager avec vous la chose suivante. Nous avons les statistiques de hameçonnage sur toute l'année 2021 et la moitié incluait une machine compromise qui utilise une adresse IP. Et je regarde les statistiques ici pour les noms de domaine. Je ne veux pointer personne du doigt, mais la plupart des hameçonnages qu'on voit et qui utilisent des domaines ne les compromettent pas, ne compromettent pas les pages, mais volent des cartes de crédit, achètent des machines à une entreprise d'hébergement et les vendent. Donc, les principaux sites, Google, GoDaddy, etc., sont ceux qui sont utilisés pour le hameçonnage. Donc, c'est le problème. Le domaine importe, surtout pour ce qui concerne le hameçonnage. Donc, si vous souffrez d'une utilisation malveillante en raison du hameçonnage, il ne s'agit pas non plus de bloquer tout Google, GoDaddy et autres. Donc, je dirais que utiliser le DNS pour bloquer et dire que les fournisseurs de services à Internet devraient rediriger le DNS ou retirer le contenu malveillant, ce serait un problème parce que tout cela ou une grande partie est faite de manière automatisée, et vous pourriez bloquer tout un CDN et des IPCDN. Donc, parfois, on vous dit, oui, le DNS est rapide. Oui, mais c'est la meilleure manière pour clore une partie de l'Internet. Et j'aime la définition qui fait la distinction entre utilisation malveillante du DNS ou par le DNS. Parce que finalement, on ne parle pas de la même chose. Parfois, vous avez le DNS comme protocole qui est utilisé comme un canal, mais ça n'est pas toujours quelque chose que vous pouvez régler. Et c'est quelque chose que les opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement ou revendeurs gèrent. Donc c'est très compliqué. Et j'insiste sur cette complexité de ce genre d'abus. Et c'est très difficile de dire que le spam, c'est un abus ou que le hameçonnage, c'est un abus du DNS. Ça dépend du type de spam, du type de hameçonnage. Et ça évolue avec le temps. Donc, créer une définition trop limitée, ça pourrait s'avérer très compliqué parce que vous n'êtes pas en train de prendre en considération les nouveaux types d'abus. Et les mauvais acteurs font quelque chose et essaient de régler les choses. Et ensuite, il faut trouver un nouveau type d'abus. Et c'est quelque chose qui ne se termine jamais. Donc, il faut penser au fait de créer des noms pour dire exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, c'est un commentaire général. J'espère ne pas avoir été trop longue.
Becky au micro, non, c'est très utile et cela nous permet de ne pas oublier ce que disait Graham par rapport au besoin de l'atténuation, de son efficacité et du fait qu'il faut qu'elle soit proportionnelle. Je crois que vous avez une question, un commentaire, Martine ? Martine au micro, c'est une question parce que je suis là pour apprendre et d'ailleurs j'apprends beaucoup. C'est très intéressant, merci parce que ceci justement permet de répondre à une partie de ma question. C'est tout à fait vrai. Si on ne s'occupe pas de l'utilisation malveillante du DNS, eh bien il va falloir interrompre le fonctionnement même de l'Internet et ce serait dramatique. Donc j'apprécie beaucoup. Et dans ce domaine, c'est vraiment une question d'atténuation des risques. Ce ne sera jamais parfait, mais il faut que ce soit aussi bon que possible. Et donc, pour les mesures techniques, il nous faut une certaine clarté, une certaine transparence. Mais j'aimerais en savoir davantage, si vous êtes prêt à rentrer dans ce sujet. Je sais qu'il y a une chaîne de valeur au niveau de la livraison, avec différentes approches d'action par rapport aux activités qui pourraient mener à des abus. Alors, il y a des exemples très clairs. Le spam. Le spam qui, maintenant, est filtré. Il y en a toujours, mais il est filtré. Donc, c'est un exemple. Donc, à votre avis, quelle est l'influence dans la chaîne de valeur sur les différents acteurs? Comment s'assurer en fait que ces abus ne submergent pas les utilisateurs? BQ Micro, qui souhaite répondre à cette question? Nouvel intervenant au micro. Eh bien, je vais essayer. Une des manières que nous gérons ceci, c'est en fait de manière assez traditionnelle. Donc, nous considérons le risque, les vulnérabilités et l'impact. Ces trois éléments, si on peut les considérer en termes d'abus, eh bien, on peut mettre une défense en place. Donc, quelque chose qui a un impact bas, mais qui implique énormément de personnes sur le globe, il faut donc y réfléchir. Ou alors, cela peut être une nation qui est ciblée. Donc, encore une fois, on peut répondre d'une autre manière. Nous passons beaucoup de temps à la réflexion sur les algorithmes de génération des domaines. Donc, pour vous donner une petite idée de l'ampleur de ce travail, pour le cas Avalanche qui existe actuellement, grâce au travail qui a été effectué, nous avons collecté et identifié les noms de domaines qui pourraient être utilisés. Et ensuite, nous avons travaillé avec les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre pour les identifier soit comme problèmes potentiels avant même qu'ils arrivent dans l'environnement, ou alors pour les cibler s'ils étaient déjà présents. Et tous les jours, nous avons 440 000 domaines potentiels pour un petit environnement, donc l'avalanche, que nous identifions. Et ceci est en cours depuis 6 ans. Donc c'est un effort immense, collectif, international, qui implique les différents bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre. C'est donc un problème énorme. Et je crois que les mauvais acteurs ont un avantage asymétrique par rapport aux bons acteurs. Et ces algorithmes peuvent vraiment aller très vite, beaucoup plus vite que les acteurs d'application de la loi, parce que peu importe pour eux les juridictions, etc. Et donc ils arrivent à générer énormément de choses. Pour moi, c'est une manière de gérer l'utilisation malveillante du DNS. Et étant donné que énormément de personnes sont impliquées, pour nous, c'est une priorité. Et qui d'autre s'en occuperait? Donc, il faut absolument le faire. Becky au micro. Merci, excellente formule. C'est utile de penser les choses en ces termes. Graham, peut-être? Oui, brièvement. Graham au micro. Je vais essayer de concrétiser un petit peu les choses. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Où est-ce que l'atténuation doit survenir? Où dans la chaîne de l'infrastructure de l'Internet est-ce qu'il faut atténuer les préjudices? Et je pense que cela dépend des types de préjudices. On parlait des réseaux zombies, surtout avec les domaines qui ne sont pas enregistrés, qui n'existent pas encore. Eh bien, c'est les opérateurs de registre qui doivent s'en occuper. Pour les sites compromis, impliqués dans la distribution de mauvais programmes ou dans le hameçonnage. Là, on peut peut-être plutôt s'adresser à la société d'hébergement ou au titulaire. Lorsqu'il s'agit d'un enregistrement malveillant, eh bien, je crois que le bureau d'enregistrement, étant donné qu'il a la relation avec le client, eh bien, c'est le lieu de résolution privilégié. Mais d'une manière plus large, je crois que ce qu'il faut faire, c'est regarder les différents types de préjudices et voir où agir pour atténuer le risque. Romain? Romain, un micro. Oui, merci. Je crois que tout ceci est tout à fait juste, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Nous avons parlé de qui doit agir pour atténuer les abus, c'est un sujet très important, mais pour moi également, ce qui est important en tant qu'ingénieur qui m'occupe des piratages, des sites compromis au jour le jour, si vous vous occupez de domaines qui sont donc abusés de manière très large, ce que nous faisons donc, eh bien, il faut aussi avoir des moyens de signaler ces utilisations malveillantes. Et le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de moyens standardisés pour contacter les parties qui pourraient agir, les acteurs ou les parties qui pourraient agir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est le titulaire de nom de domaine. On ne peut plus les contacter suite au RGPD. Donc, il n'y a pas de moyen automatisé ou automatique pour nous pour pouvoir contacter en fait le titulaire du nom de domaine. Donc, il faut nous rendre manuellement sur le site web et essayer de voir s'il y a une adresse email qui apparaît et ensuite contacter la personne. Ça ne marche plus, ce n'est plus automatique. Donc, lorsqu'il y a des utilisations malveillantes d'échelle, c'est vraiment très compliqué. Par ailleurs, il y a des noms de domaines qui ont été enregistrés de manière malveillante, à des fins malveillantes. Et donc, dans ces cas, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre peut agir. Mais même chose, il n'y a pas de moyen standardisé de savoir si quel est le statut du nom de domaine, s'il a été enregistré à des fins malveillantes, qui est la personne à contacter, Donc, de mon point de vue, ce n'est pas simplement l'atténuation des menaces qui est importante, mais c'est aussi la question de permettre à ceux qui souhaitent faire quelque chose de positif de pouvoir communiquer. Et donc, il faudrait que ces moyens de communication soient plus directs. Si vous parlez au bureau d'enregistrement et aux opérateurs de registre, je pense qu'ils reçoivent différentes formes de signalement d'utilisation malveillante. Donc, même chose, il faudrait que tout ceci soit standardisé. En ce qui concerne les informations sur ces questions, je pense que les choses devraient être automatisées de manière à réduire le travail impliqué dans les deux camps. J'espère que je ne me suis pas trop éloignée du sujet. Becky au micro. Non, je crois que c'est très intéressant. Et c'est un bon rappel par rapport à l'utilité des données pour les experts en atténuation. Et c'est un rappel aussi du besoin de trouver un moyen dans le monde du RGPD. Stuart au micro, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Roman vient de dire, mais il y a autre chose. Lorsqu'on a navigué tout ce système, et il y a tout un processus effectivement juridique pour le titulaire de nom de domaine, et c'est une tâche vraiment très longue dans le domaine d'application de la loi, il faut bien comprendre le cadre. Mais lorsqu'on arrive à la fin, eh bien il faut qu'il y ait un certain niveau de confiance. Il faut qu'on sache qu'on a effectivement trouvé des informations de valeur. Et le problème, c'est les millions de clients. Et il y a très peu de vérifications qui sont faites pour vérifier l'identité de la personne qui achète un domaine. Et peut-être que j'ouvre là encore autre chose, une autre question. Mais on ne sait jamais si les informations que l'on reçoit sont utiles et précises. Et donc, je parle au nom des agences d'application de la loi, parce qu'en fait, on peut aller louer une voiture et on ne sait pas comment la voiture a été louée, comment le paiement a été effectué, etc. Et donc, dans le cadre d'une location de voiture, ceci est vérifié. Je sais bien que vous n'êtes pas la police de la planète, donc je ne sais pas si ceci vous plaît, mais je crois que la vente de sites web en Bitcoin, c'est une question qu'il nous faut considérer. Le lieu où sont gardées les données et comment elles sont gardées. Becky au micro, oui, c'est un problème. En termes d'utilisation malveillante du DNS, donc quelles sont les caractéristiques et par rapport à ce qu'il faut faire, c'est vraiment le sujet de la deuxième moitié de la réunion. Mais je crois que tous les panélistes l'ont dit, on pourrait passer énormément de temps à essayer de donner des définitions. Mais en fin de compte, on ne sait pas exactement quelle en sera l'utilité. Léon, vous avez une question? Léon au micro. Oui, merci beaucoup, Becky. Ma question est peut-être plus fondamentale. Je comprends bien que ce sujet est complexe. Nous l'avons entendu, il y a différentes définitions par rapport à l'utilisation malveillante du DNS, mais d'un point de vue pratique, comment pouvons-nous mettre à jour notre propre définition tout en essayant d'éviter de dépasser notre mission au sein de l'ICANN? Vous savez que nous devons respecter les statuts, nous y travaillons depuis des années d'ailleurs. Il faut reconnaître que le monde dans lequel nous avons rédigé ces statuts a évolué. Il faut mettre à jour, sans doute, cette formulation. Donc, la question, c'est comment réconcilier, comment combler la lacune qui, de plus en plus, semble se creuser entre les statuts et la réalité, surtout en matière d'utilisation malveillante du DNS. Donc, que faut-il changer du point de vue des experts, de manière à ce que nous puissions comprendre comment adapter notre définition, quel chemin suivre, tout en restant bien sûr fidèle à notre mission. Becky au micro, oui, je pense que tous les panélistes en ont parlé, Léon. On parle ici du fait que les gens trouveront différentes manières d'abuser et d'exploiter le DNS et les gens avec le temps. Et donc la question, c'est comment à l'ICANN, est-ce que nous pouvons justement rester en phase avec ce qui existe à l'extérieur, avec les nouvelles tendances d'utilisation malveillante du DNS? Est-ce que vous avez des choses à dire, chers membres du panel, par rapport à ça? Je ne sais pas, allez-y.
Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous laisser intervenir. Stewart au micro, est-ce que je peux intervenir en premier? Mais je ne veux pas monopoliser le débat non plus. Becky, allez-y. Stewart au micro. Écoutez, je pense... Moi, en fait, je vois les choses comme un diagramme. Il y a des choses qui ne tombent pas dans la catégorie utilisation malveillante du DNS. Et ça, c'est assez facile de les exclure de la conversation. Il y a des choses qui vont toujours relever de la catégorie utilisation malveillante du DNS. Et ça, c'est très facile à définir. Et au milieu, vous avez ce mélange diffus. Est-ce que c'est une décision éthique, juridique, qui va conditionner ce choix? Et vous avez l'ICANN et ses organismes qui ont des réunions, qui prennent des décisions pour élaborer les meilleures pratiques. Et de par le monde, il y a énormément de bureaux d'enregistrement qui appliquent des systèmes, des mesures extrêmement bonnes et d'autres pas si bonnes. Donc, si on fixe bien haut la barre en disant « voilà les meilleures pratiques, voilà ce qu'on recommande » et voilà quels sont les bénéfices pour telle et telle raison, c'est une bonne chose, il suffit simplement de relever la barre. Et il y a également un système sous-jacent qui est cassé, et le RGPD, bien entendu, complique encore plus les choses. Mais il doit y avoir un moyen de s'en sortir et de faire en sorte que ce système soit suffisamment robuste pour ne pas violer la confidentialité ou la vie privée des utilisateurs, tout en luttant contre l'utilisation malveillante. Voilà, je vais me taire et je vais laisser les autres parler. Becky au micro, non, écoutez, continue à parler. Pas de problème. Est-ce que d'autres au panel souhaitent réagir? Jonathan, puis Graham. Jonathan, vous êtes muet, surmuet, pardon. Jonathan, micro. Écoutez, je pense que c'est une excellente question. Et je ne sais pas si la mission de l'ICANN, c'est de traiter l'utilisation malveillante du DNS du point de vue de l'éthique, de l'abus à partir du DNS ou l'abus de l'infrastructure elle-même. Et là, je ne vais pas faire de commentaires parce que ça ne relève pas de mon expertise. Mais je pense qu'une bonne manière d'aborder les choses, c'est de voir quelles sont les catégories généralement acceptées comme abus? Par exemple, la fraude, le hameçonnage comme fraude, abus de contenu, autre forme de fraude. Et cette taxonomie est assez bonne pour ces catégories générales. Et voir quels sont les exemples pour chaque catégorie d'abus qui apparaissent par rapport à l'infrastructure du DNS et abus de l'infrastructure. Et ça, c'est relativement facile à faire, parce que d'ailleurs, ça a déjà été fait. Et que cela relève de la mission de l'ICANN ou pas, et que l'ICANN alloue des ressources pour cela ou pas, ça, c'est une autre question. Becky au micro, oui, effectivement. Graham, merci. Graham au micro. Alors, sur la question de la définition, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est assez clair ce qui relève de la mission de l'ICANN ou autre. On a encore un gros problème à définir pour voir ce qui relève de la mission de l'ICANN ou pas, voir ce qui est en marge de la mission de l'ICANN ou pas. Et je ne veux pas m'engager sur une voie qui pourrait nous éloigner de notre propos ici, mais je crois qu'il faut revenir à la question de l'accès aux informations du bureau d'enregistrement. Et je conseillerais au bureau d'enregistrement de séparer cela. D'ailleurs, d'abord, l'accès aux informations des bureaux d'enregistrement, c'est une histoire sans fin. Où vous pouvez passer un temps illimité et une énergie folle à essayer de régler ce problème. Les bureaux d'enregistrement ont une responsabilité juridique par rapport au nom de domaine et ils doivent pouvoir être contactés. Donc je pense qu'il faut beaucoup faire pour améliorer les choses et je crois qu'on va en parler dans la deuxième partie de la réunion. Mais pour atténuer la plupart des abus, au niveau des bureaux d'enregistrement, vous n'avez pas besoin d'avoir accès aux informations du titulaire de nom de domaine. Et la meilleure manière de régler le problème, c'est de ne pas s'engager sur cette voie parce que, encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps et vous allez y laisser beaucoup d'énergie. Nouvelle intervenante au micro, Christine au micro. Je vois que Becky est gelée, son image est gelée. Je ne sais pas si je peux intervenir, je vais le faire. Alors je voulais dire que je n'ai pas pu trouver la définition exacte de l'ICANN, mais c'est trop vague de dire qu'un nom de domaine est utilisé à des fins de hameçonnage, programme malveillant, etc. Donc, si vous voulez élaborer des politiques pour retirer l'enregistrement d'un domaine, il faut être beaucoup plus spécifique. Les domaines utilisés exclusivement à des fins de réseaux zombies, hameçonnage, programmes malveillants. Et ça pourrait être un cas d'étude. Parce que nous travaillons avec NICPR, un enregistrement de nom de domaine pour .pr et de temps en temps, on est contacté pour retirer l'enregistrement d'un nom de domaine dans le cadre d'une avalanche. Mais aucun de ces noms de domaine ne sont exclusivement utilisés à ces fins. Pendant 10 ans, ils ont été utilisés à des fins légitimes. Donc, sait-on pourquoi ce nom de domaine a été utilisé à des fins malveillantes ? C'est ce que j'essaie de voir. Et ensuite, pour retirer l'enregistrement d'un nom de domaine, il faut que vous ayez des preuves. Et il faut prouver que l'abus a été effectué à des fins de hameçonnage exclusivement. Et si on commence à dire que c'est un abus de contenu, tout ça dépend de la culture locale, de la législation locale et de tout un tas de choses. Donc c'est plus simple, me semble-t-il, de voir ce qui constitue une attaque malveillante pour dire, voilà, ça c'est un réseau zombie ou c'est telle autre chose. Parce que sinon c'est très compliqué. Donc si on peut être plus spécifique et dire, voilà, ça c'est un abus, on avancera. Ensuite, échange d'informations. On a énormément de groupes qui en parlent, donc je suggérerais de ne pas créer un autre groupe qui va parler d'échange d'informations, etc. Nous avons énormément de groupes d'intérêt qui parlent de cela, qui parlent d'échange de renseignements, de taxonomie. Nous avons toute une série d'outils qui sont débattus avec la communauté européenne, donc on a énormément de choses en cours en termes d'échange d'informations et d'expériences. Donc il s'agit de réunir nos efforts, puisqu'il y a beaucoup de groupes qui essaient de définir tout cela. Et je pense qu'il est très compliqué d'avoir quelqu'un qui créerait une liste noire. Et je pense que pendant la pandémie de Covid-19, la plupart de nos sites web et domaines légitimes du gouvernement ont été utilisés à des fins légitimes et ont été sur des listes noires, considérées comme malveillants. Et on avait des sites qui voulaient obtenir des renseignements sur la Covid-19 et ne pouvaient pas l'avoir parce qu'on avait des chercheurs des États-Unis ou de l'UE qui ne comprenaient pas le site web et donc le blacklistait et les gens ne pouvaient pas avoir accès à ce nom de domaine. Donc, j'insiste encore, utiliser le blocage des noms de domaine et les blacklists, ça n'est pas la première chose à laquelle on devrait penser parce que ça entraîne beaucoup de préjudice. Donc, il faut essayer de réduire ce dont on parle et ne pas être aussi générique et parler uniquement du DNS comme base de données et non pas comme protocole. Il s'agit de voir comment on contacte le propriétaire, lui expliquer ce qu'est un abus et quelles sont les politiques, qu'il s'agit d'une entreprise d'hébergement, un fournisseur de services Internet ou autre. Donc, il y a plusieurs manières de s'engager. Je pense que c'est très important ici de réunir toutes les communautés ensemble. Et c'est plus important, plutôt que de voir qui doit agir ou entreprendre des actions. Et je pense que l'ICANN, c'est le bon endroit pour le faire. Becky au micro, merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de commentaires de la part des membres du panel. Il nous reste encore 5 minutes avant la pause. J'ai vu des mains levées. D'abord Roman, Graham et Massiège. Roman au micro, oui. Très brièvement, je ne suis pas à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que si vous ne définissez pas qui devrait entreprendre des actions et dans quelles circonstances, on va finir pris dans de gros problèmes. Également, lorsque vous parlez de suspendre ou de retirer la délégation d'un nom de domaine, a.ch, la solution, et je pense que d'autres ont la même approche, c'est de définir des organisations d'experts. Ces organisations peuvent être à but non lucratif ou organisations gouvernementales ou experts de l'industrie qui, avec un rapport d'abus, décident avec un expert si ce nom de domaine a été enregistré dans le seul but de faire une fraude et demander au bureau d'enregistrement ou opérateur de registre d'en dire un peu plus par rapport à l'enregistrement de ce nom de domaine. Becky Burr au micro, oui. Jonathan? Jonathan au micro. Oui, très brièvement. Il ne faut pas perdre de vue, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais j'insiste, et il ne faut pas perdre de vue sur l'enregistrement frauduleux. C'est un problème massif. Et effectivement, les adresses mail compromises, c'est un énorme problème aussi. On l'a vu hier avec Ustar, avec des attaques DNS. Et il ne faut pas se perdre dans la théorie. Parce que là, il y a un problème concret qu'il faut régler. Et je pense qu'on va en parler plus en détail dans la prochaine section. Becky au micro. Oui, Graham. Graham au micro. Je pense que le groupe des représentants des bureaux d'enregistrement a élaboré les bonnes pratiques sur les adresses mail compromises. Peut-être que ça n'est pas encore disponible, mais ça va l'être sous peu. Alors, je vais signaler un autre point qui me paraît important, puisque Christine a soulevé des questions très intéressantes par rapport à la liste de réputation et de blocage. Brièvement, la manière fondamentale dont on peut comprendre l'abus DNS, c'est voir où a lieu l'abus, à qui s'adresse cette attaque, Et vous voyez plusieurs sources. Et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. D'une manière générale, ce qui est fait n'est pas fait en vue d'atténuer. Donc il y a plusieurs encouragements pour la protection des RPL et il y a une tension intéressante entre cela et la communauté opérateur de registre, bureau d'enregistrement. Et il faudrait approfondir cette question peut-être dans la deuxième partie de cette réunion. Becky au micro. Merci Graham. Ma siège au micro. Écoutez, peut-être qu'on peut passer à la deuxième partie de la réunion, mais je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Graham, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de complexité par rapport au blacklist des domaines et du URL, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Roman aussi, pour dire qu'il faut définir qui doit entreprendre des actions. Alors peut-être qu'on va pouvoir en parler par la suite, parce que cela... touche à la thématique qu'on va aborder dans la deuxième partie de la réunion. Becky au micro. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les membres du panel d'une excellente conversation. On va faire une pause de 15 minutes et ensuite on va passer aux prochaines thématiques et je suis sûre que la discussion sera tout aussi intéressante. Donc on se retrouve dans 15 minutes. Merci.
Just an announcement for those who are still connected. If you would like to register, you...
Annonce pour ceux qui sont encore connectés, si vous voulez vous enregistrer avec vos mails, vous verrez sur le chat qu'il y a beaucoup de noms de mails qui ont été partagés. Je vais vous copier un lien sur le chat que vous pouvez utiliser pour vous connecter et vous identifier.